Voltaire, lettre 22, sur Monsieur Pope et quelques autres poètes fameux. Je voulais vous parler de Monsieur Prior, l'un des plus aimables poètes d'Angleterre que vous avez vu à Paris plénipotentiaire et envoyé extraordinaire en 1712. Je comptais vous donner aussi quelques idées des poésies de Milord Roscommon, de Milord d'Orsay, etc. Mais je sens qu'il me faudrait faire un gros livre et qu'après bien de la peine, je ne vous donnerai qu'une idée fort imparfaite de tous ces ouvrages. La poésie est une espèce de musique. Il faut l'entendre pour en juger. Quand je vous traduis quelques morceaux de ces poésies étrangères, je vous note imparfaitement leur musique, mais je ne puis exprimer le goût de leur chant. Il y a surtout un poème anglais que je désespérerais de vous faire connaître. Il s'appelle « Hudibra ». Le sujet est la guerre civile et la secte des puritains tournée en ridicule. C'est Don Quichotte, c'est notre satyre Ménippe fondue ensemble. C'est de tous les livres que j'ai jamais lus celui où j'ai trouvé le plus d'esprit, mais c'est aussi le plus intraduisible. Qui croirait qu'un livre qui saisit tous les ridicules du genre humain et qui a plus de pensées que de mots ne peut souffrir la traduction? C'est que presque tout y fait allusion à des aventures particulières. Le plus grand ridicule tombe principalement sur les théologiens que peu de gens du monde entendent. Il faudrait à tout moment un commentaire et la plaisanterie expliquée cesse d'être plaisanterie. Et tout commentateur de bons mots est un sot. Voilà pourquoi on n'entendra jamais bien en France les livres de l'ingénieux docteur Swift qu'on appelle le Rabelais d'Angleterre. Il a l'honneur d'être prêtre, comme Rabelais, et de se moquer de tout, comme lui. Mais on lui fait grand tort, selon mon petit sens, de l'appeler de ce nom. Rabelais, dans son extravagant et inintelligible livre, a répandu une extrême gaieté et une plus grande impertinence. Il a prodigué l'érudition, les ordures et l'ennui. Un bon conte de 2 pages est acheté par des volumes de sottises. Il n'y a que quelques personnes d'un goût bizarre qui se piquent d'entendre et d'estimer tout cet ouvrage. Le reste de la nation rit des plaisanteries de Rabelais et méprise le livre. On le regarde comme le premier des bouffons. On est fâché qu'un homme qui avait tant d'esprit en ait fait un si misérable usage. C'est un philosophe ivre qui n'a écrit que dans le temps de son ivresse. Monsieur Swift est Rabelais dans son bon sens et vivant en bonne compagnie. Il n'a pas la vérité, la gaieté du premier, mais il a toute la finesse, la raison, le choix, le bon goût qui manque à notre curé de Meudon. Ses vers sont d'un goût particulier et presque inimitable. La bonne plaisanterie est son partage en vers et en prose. Mais pour le bien entendre, il faut faire un petit voyage dans son pays. Vous pouvez plus aisément vous former quelques idées de Monsieur Pope. C'est, je crois, le poète le plus élégant, le plus correct et, ce qui est encore beaucoup, le plus harmonieux qu'ait eu l'Angleterre. Il a réduit les sifflements aigres de la trompette anglaise au son doux de la flûte. On peut le traduire parce qu'il est extrêmement clair et que ses sujets, pour la plupart, sont généraux et du ressort de toutes les nations. On connaîtra bientôt en France son essai sur la critique par les traductions en vers qu'en fait M. l'abbé de Reynel. Voici un morceau de son poème de la boucle de cheveux que je viens de traduire avec une liberté ordinaire car, encore une fois, je ne sais rien de pis que de traduire un poète mot pour mot. Voici. Umbriel, à l'instant, vieux gnome déchiré, va d'une aile pesante et d'un air renfrogné, chercher en murmurant la caverne profonde, où loin des doux rayons que répand l'œil du monde, la déesse aux vapeurs a choisi son séjour. Les tristes aquilons y sifflent alentour, et le souffle malsain de leur aride haleine y porte aux environs la fièvre et la migraine. Sur un riche sofa, derrière un paravent, loin des flambeaux, du bruit, des parleurs et du vent, la quinteuse déesse incessamment repose, le cœur gros de chagrin, sans en savoir la cause, n'ayant pensé jamais, l'esprit toujours troublé, l'œil chargé, le teint pâle et l'hypocondre enflé. La médisante envie est assise auprès d'elle, vieux spectre féminin, décrépite pucelle, avec un air dévot déchirant son prochain, et chansonnant les gens, l'évangile à la main. Sur un lit plein de fleurs négligemment penché, une jeune beauté non loin d'elle est couchée. C'est l'affectation qui grasseille en parlant, écoute sans entendre et lorgne en regardant, qui rougit sans pudeur et rit de tout sans joie. De 100 mots différents prétend qu'elle est la proie et pleine de santé sous le rouge et le fard, se plaint avec mollesse et se pâme avec art. Si vous lisiez ce morceau dans l'original, au lieu de le lire dans cette faible traduction, vous le compareriez à la description de la mollesse dans le Lutrin. En voilà bien honnêtement pour les poètes anglais. Je vous ai touché un petit mot de leur philosophe. Pour de bons historiens, je ne leur en connais pas encore, il a fallu qu'un Français ait écrit leur histoire. Peut-être le génie anglais, qui est ou froid ou impétueux, n'a pas encore saisi cette éloquence naïve et cet air noble et simple de l'histoire. Peut-être aussi l'esprit de parti qui fait voir trouble a décrédité tous leurs historiens. La moitié de la nation est toujours l'ennemi de l'autre. J'ai trouvé des gens qui m'ont assuré que Milord Marlborough était un poltron et que M. Pope était un sot. Comme en France, quelques jésuites trouvent Pascal un petit esprit et quelques jansénistes disent que le père Bourdaloue n'était qu'un bavard. Marie Stuart est une sainte héroïne pour les jacobites. Pour les autres, c'est une débauchée, une adultère, une homicide. Ainsi, en Angleterre, on a des factums et point d'histoire. Il est vrai qu'il y a à présent un monsieur Gordon, excellent traducteur de Tacite, très capable d'écrire l'histoire de son pays, mais monsieur Rapin de Trois-Rats l'a prévenu. Enfin, il me paraît que les Anglais n'ont point de si bons historiens que nous, qu'ils n'ont point de véritables tragédies, qu'ils ont des comédies charmantes, des morceaux de poésie admirables et des philosophes qui devraient être les précepteurs du genre humain. Les Anglais ont beaucoup profité des ouvrages de notre langue. Nous devrions, à notre tour, emprunter d'eux après leur avoir prêté. Nous ne sommes venus, les Anglais et nous, qu'après les Italiens, qui en tout ont été nos maîtres et que nous avons surpassés en quelque chose. Je ne sais à laquelle des 3 nations il faudra donner la préférence, mais heureux celui qui sait sentir leurs différents mérites.